BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. On va parler d'acteurs crypto qui auraient été débancarisés. On va parler de surveillance financière. On va voir ce que c'est. On va surtout en parler plutôt du côté de chez nous, de l'Union européenne, mais pas que. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à distance Théo Mogenet, général manager chez Bull Bitcoin. Bonjour Théo. Et en plateau, nous avons Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre, directeur de la stratégie chez Paymium. Et puis pour ceux qui nous suivent à la télévision, Alexandre n'a plus de lunettes.
Exactement. Voilà, c'est une révolution.
Voilà, c'est une révolution, c'est un changement. Donc aujourd'hui,
plus rien de méchant.
Pas de chronique, pas de feuille, rien du tout. Là, on va parler, ça va être un peu une émission d'interview globale, thématique avec Théo Mogenet. Justement Théo, je propose que vous plantiez un petit peu le décor parce que tout part d'une interview de Marc Andreessen, un des venture capitalistes les plus accomplis et reconnus de la Silicon Valley. Il a été en interview chez Joe Rogan, tout simplement le podcast américain le plus écouté de la planète. Et c'est la première fois qu'il a abordé ce fameux sujet d'entreprise crypto qui aurait été débancarisée aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu de contexte, Théo, pour commencer?
Oui, totalement. Et donc effectivement, Marc Andreessen, c'est un des venture capitalistes qui a aussi beaucoup financé cet écosystème. Donc c'est pas anodin qu'il en parle. Et finalement, en fait, il s'est fait le relais d'un article qui avait été publié par un analyste de notre écosystème très connu, qui s'appelle Nick Carter, et qu'il avait intitulé « Chalkpoint 2.0 ». Alors, pourquoi « Chalkpoint 2.0 » Il faut revenir un petit peu, justement, au « Chalkpoint 1.0 », donc « Chalkpoint goulet d'étranglement » en français, qui, en fait, faisait référence à un ensemble de mesures qui avaient été prises par l'administration Obama.
Ah, on a perdu Théo qui était en train de nous expliquer. Théo, je ne sais pas si vous nous entendez. Ouais, non, je crois que la liaison avec Théo est pas très bonne. On va revenir en plateau et on va récupérer Théo dans quelques instants. Alexandre Stachenko, donc Théo était en train de mettre un petit peu de contexte sur ce qui s'était passé, notamment sous l'administration Obama. Et là, il parlait de Chalkpoint 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, pour terminer le propos de Théo, effectivement, c'est sur le Chalkpoint 1.0, c'était une opération qui avait été menée sur des business qui étaient considérés comme mal vus, non soutenus par l'administration Obama, alors même qu'ils étaient légaux. Donc aux États-Unis, ça concernait notamment tout ce qui était business autour de la marijuana ou autour de la vente d'armes, qui est donc légale aux États-Unis de façon libre la plupart du temps, mais qui, comme ils étaient mal vus, en fait, l'administration Obama a fait pression sur les autorités bancaires et sur les banques elles-mêmes pour forcer la débancarisation de ces business-là. Et évidemment, on le sait dans le monde actuel, globalement, quand on est débancarisé, ça devient très difficile de faire du business. Alors, autant aux États-Unis, ils peuvent quand même faire un business seulement en cash, ce qui est quand même très difficile, mais c'est possible. Autant en France, par exemple, quand on n'a pas de compte bancaire, on n'a pas le droit d'avoir d'entreprise tout court. Il faut un compte bancaire pour faire une entreprise. Donc, c'est particulièrement embêtant. Et Chalkpoint 2.0, comme l'a dit Théo, en fait, c'est la nouvelle opération qui a été lancée par l'administration Biden, notamment, sur plutôt les entreprises crypto, mais qui ont touché d'autres secteurs aussi. Ça reste dans la même logique, c'est-à-dire l'administration regarde un business qui est légal, mais elle l'aime pas. Donc, elle va faire des manœuvres, soit en appelant des gens, soit en faisant des petits courriers, des choses comme ça, pour dire, alors, vous avez le droit de toucher à ces gens-là. Bien sûr, c'est légal. Cependant, si vous le faites, sachez qu'on va balancer plein de gens pour scruter toutes vos opérations, vous faire des audits dans tous les sens, ça va vous coûter des fortunes, mais voilà, mais vous faites ce que vous voulez. Et donc, évidemment, les banques, elles débancarisent parce qu'elles veulent pas prendre le risque d'avoir un problème avec ces acteurs-là. Alors, je sais pas si Théo est revenu, mais le Chalkpoint 2.0, il y a eu des choses beaucoup plus graves dans la mesure où une enquête est en cours pour savoir si les banques qui ont fait faillite, notamment au printemps 2023 de mémoire, donc SVB, Signature, etc., il y en avait certaines qui étaient parfaitement capitalisées, qui pouvaient en fait largement soutenir le risque de faillite, mais l'administration a forcé la main, en fait a forcé la faillite de ces banques, aurait en tout cas, selon avant l'enquête, aurait forcé la faillite parce que ces banques étaient exposées à l'écosystème crypto et donc en fait n'auraient pas suivi ce fameux Chalkpoint 2.0.
Alors, normalement, on a récupéré Théo Mogenet. Théo, justement, je ne sais pas si vous avez pu entendre Alexandre, mais il a fini un petit peu la mise en contexte de ce fameux Chalkpoint 2.0. Alors, il y aurait, je parle au conditionnel, eu une débancarisation, on va dire, de certains acteurs crypto, notamment au printemps 2023 aux États-Unis. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce que vient de dire Alexandre à ce sujet-là?
Oui, non, c'est parfaitement résumé. Et peut-être pour quand même donner un petit peu de contexte aussi aux gens qui nous écoutent, les personnes qui ont fait ces révélations, c'est notamment le chairman, donc le président d'une des banques qui était ciblée, Signature Bank, qui est un ancien député américain, qui est un régulateur qui a effectué beaucoup de lois bancaires à travers sa carrière. Donc on n'est pas sur des cryptos anarchistes, paranoïaques, comme pourraient dire certains. Et c'est des choses qui ont été assez bien documentées, mais qui effectivement, avant cette entrevue de Marc Andreessen chez Joe Rogan, étaient assez peu discutées et qui n'avaient pas trop transpiré au-delà de notre écosystème. Effectivement, pour compléter ce que disait très justement Alexandre, la banque en question, Signature Bank, s'est retrouvée à recevoir donc la FDIC, qui est en fait le régulateur des banques qui garantit les
dépôts.
Voilà, c'est ça. On finit les phrases. Ah, c'est bon. Théo, on vous a récupéré. Pardon, c'est un peu coupé. Si vous pouvez recommencer votre phrase depuis le départ.
Oui, alors du coup, en fait, la Signature Bank a reçu du coup la visite de la FDIC le week-end après la fermeture de marché. Effectivement, comme le disait justement Alexandre, la banque avait subi des retraits massifs, donc une sorte de bank run, mais elle était encore capitalisée, elle pouvait encore servir ses clients. Et en fait, ce que raconte Barney Frank, donc cet ancien député et président de la banque, c'est que les discussions qui se sont effectuées avec les différents régulateurs ont été assez explicites dans le fait que ils servaient quelque part d'exemple pour dissuader finalement les banques d'ignorer ces directives de goulet d'étranglement 2.0 vis-à-vis des acteurs du secteur crypto.
Mais alors justement, Théo, en fait, on parlera des conséquences que ça peut avoir évidemment pour ces acteurs crypto, puis on va élargir, on va voir que ça peut être utilisé malheureusement pas forcément que pour des acteurs crypto aussi dans le reste du monde, mais pourquoi, quel est l'intérêt entre guillemets de s'attaquer là à ces acteurs crypto? Est-ce qu'il y a des hypothèses qu'on peut émettre pour dire pourquoi tout simplement ces acteurs crypto là en question pourraient être visés?
Si vous voulez, à la base, si on retourne à comment naît la crypto, ça vient de l'invention de Bitcoin et fondamentalement, malgré ce que certains pourront raconter, c'est aussi un projet politique. Quand on se penche sur les écrits de son créateur ou même des premiers fondateurs de Bitcoin, on va dire des gens qui ont participé à le créer, il y a cette idée d'essayer de séparer la monnaie de l'État et donc de faire en sorte que l'État n'ait pas un monopole sur le fait de battre monnaie et que, par extension, les banques ne soient pas ce goulet d'étranglement, ne soient pas cette infrastructure privée qui peut être soumise à une capture réglementaire et sans laquelle on ne peut pas exister économiquement, on ne peut pas accéder à la vie sociale et économique. Et donc, d'une certaine manière, autant pour le pouvoir politique et les administrations qui jouissent de ce monopole et du pouvoir qui en découle, que du secteur bancaire qui en profite également, il y a, je pense, aussi peut-être une volonté d'essayer de mettre des bâtons dans les roues à une forme de concurrence qui serait difficile d'arrêter par d'autres moyens, puisque, comme vous l'avez probablement rappelé assez souvent dans cette émission, on n'a pas aujourd'hui beaucoup de solutions pour arrêter Bitcoin directement.
Bon, là, on parle d'une affaire récente qui concerne la crypto, mais Théo, c'est pas forcément un cas isolé, ça peut aussi aller à d'autres secteurs.
Non, bien sûr, on a eu des exemples dans l'histoire récente, je pense notamment par exemple à Wikileaks et Julian Assange en 2010, qui, lorsqu'il a fait des révélations sur, alors je me rappelle plus si c'était ce qui s'était passé en Irak et en Afghanistan, en fait, s'est fait mettre des bâtons dans les roues de la même manière, c'est-à-dire que toutes les rampes d'accès de financement à Wikileaks, donc par lesquelles ils recevaient des dons et ils permettaient de se financer et donc de continuer leur travail journalistique, ont été coupées, que ce soit des acteurs fintech type PayPal moderne ou des banques classiques. On a eu également assez récemment en France, là pour le coup, on a appris que, par exemple, le Rassemblement National, qui certes on aime ou on n'aime pas, mais reste un des partis politiques principaux dans le pays, a dû se tourner vers des banques étrangères pour se bancariser, justement parce que la plupart des établissements refusaient de leur fournir des services bancaires. Et donc, effectivement, ça peut également toucher des migrants ou des réfugiés politiques qui viennent de pays sous sanction. Donc, on ne va pas faire la liste, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le secteur crypto et qui peut être particulièrement pernicieux parce que à partir du moment où entre guillemets, l'État peut imposer la monnaie à cours légal, peut définir qu'est-ce qui va être accepté comme moyen de paiement et forcer les gens à devoir passer systématiquement par le système bancaire pour pouvoir s'intégrer au tissu économique et social du pays. Dès lors qu'on peut faire pression sur le système bancaire pour déplatformer, débancariser des gens ou des entreprises, ça devient une manière de pouvoir régler l'ensemble de l'activité de manière très précise dans le pays, et ça en dehors de toute forme de délibération politique, de tout respect de l'état de droit. Donc ça peut avoir des ramifications qui sont assez gigantesques pour la fabrique même de nos républiques constitutionnelles.
Alors là, Théo, on parle de débancarisation, mais il y a d'autres pratiques qui peuvent être observées.
Bah elles, alors pardon, je sais pas si
t'es... Alexandre.
Alexandre. Ouais, alors le d'abord juste deux éléments de contexte en plus pour compléter ce que disait Théo. Ces pratiques-là, on la constate effectivement sur le phénomène de débancarisation, mais je tiens à rappeler que l'acceptation, par exemple, des ETF aux États-Unis Bitcoin n'a été que l'épilogue de 10 ans de procès. La SEC ne respectait pas sa propre loi. Donc effectivement, on voit que c'est pas la seule chose extrajudiciaire qui se passe pour essayer d'empêcher le développement d'un écosystème, en l'occurrence les cryptos, mais comme le disait Théo très justement, ce n'est pas du tout que les cryptos. Les cryptos, c'est le canari dans la mine, c'est celui qui est évident, gros comme le nez sur la figure, mais à la fin, on parle en fait d'un problème qui est vraiment démocratique, absolument pas juste crypto. Ce qui s'est suivi, ce qui a suivi le deuxième élément, ce qui a suivi le podcast aussi de Marc Andreessen, c'est que David Marcus, qui était donc à la tête de Libra à l'époque, donc la crypto-monnaie de Facebook, en a profité pour révéler quelque chose qui, selon lui, n'avait jamais dit. Alors, quand on est dans l'écosystème, on s'en doutait un tout petit peu, mais ça n'avait jamais été dit, et de dire en fait, je vais vous dire pourquoi Libra est mort. Pourquoi Libra est mort ? Parce que malgré 2 ans de délibération, de scrutiny, d'audition au Sénat, à répondre à toutes les exigences réglementaires sur le blanchiment, le financement du terrorisme, etc., etc., à la fin, ils avaient épuisé toutes les voies de recours légal pour nous empêcher de faire notre business. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aurait eu, selon David Marcus et selon d'autres, des pressions politiques, notamment Janet Yellen, qui est mentionnée, donc la secrétaire au Trésor américain, qui aurait dit non, on peut pas laisser survivre ce projet, ce serait un suicide politique. Donc, débrouillez-vous, arrêtez-moi ce projet-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un directeur, d'ailleurs un VP de Visa, qui vient dans les commentaires de David Marcus pour dire, je confirme, on a reçu des pressions, on a reçu des lettres du Sénat américain qui nous ont dit, vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de travailler avec ces gens-là. Mais si vous le faites, sachez qu'il y aura vous serez scruté sur tous vos business avec des audits dans tous les sens qui vous coûteront super cher. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc évidemment, sous cette pression-là, tout le monde a lâché le projet et le projet est mort. Pour poursuivre sur le fait que ce n'est pas quelque chose de crypto, Théo a mentionné certains exemples. Moi, j'en profiterai pour donner des exemples qui sont démocratiques et qui ne se passent pas en Iran ou en Corée du Nord. Les plus récents, c'est évidemment au printemps 2024, on a eu le principal parti d'opposition en Inde, donc qui est le Indian National Congress, donc qui était le parti de Gandhi quand même historiquement, donc c'est symbolique, qui s'est vu fermer ses comptes bancaires pendant la campagne. Il y a eu une campagne législative. Aucun compte bancaire pendant la campagne législative. Donc en fait, c'est une façon de faire la loi martiale pour parler dans l'actualité avec la Corée du Sud, mais en étant beaucoup moins visible. Parce que sans compte bancaire, que peut faire un parti d'opposition ? Rien, il ne peut pas payer les médias, il ne peut pas payer pour l'organisation de conférences, il ne peut pas payer pour les déplacements de ses candidats, il ne peut rien faire. Donc en fait, il n'y a pas eu de campagne, et bizarrement, évidemment, les scores ne sont pas aussi élevés qu'attendus. On a eu la même chose au Canada, avec les camionneurs, où dès qu'ils sont allés dans la rue pour manifester, on leur a coupé leur compte bancaire, et de manière complètement illégale. Je précise que ça a été jugé 2 ans après comme étant anticonstitutionnel par la Cour constitutionnelle du Canada. Donc là, encore une fois, je réinsiste, il ne s'agit pas d'un délire de crypto-anarchiste, il s'agit de processus extrajudiciaires qui sont toujours jugés a posteriori comme étant anticonstitutionnels, mais comme d'habitude, ça arrive a posteriori, et donc c'est trop tard. Les manifestations se sont arrêtées, le parti n'a pas pu faire campagne. Je termine avec un exemple, par exemple, sur l'Europe. Quand on a le droit d'asile en Europe, a priori, c'est qu'en règle générale, on vient d'un pays qui n'est pas forcément très fréquentable. Sauf que quand on vient d'un pays qui n'est pas très fréquentable, on tombe tout de suite dans la case risquée pour les interlocuteurs bancaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on a le droit d'asile en Europe, on a théoriquement le droit d'être accueilli et de s'insérer à la société. Dans la pratique, on ne peut pas s'insérer à la société parce que les banques vont refuser de vous ouvrir un compte bancaire. Donc, à part le cash, vous pouvez rien faire d'autre. Donc, il y a vraiment ce genre de choses où même sur les droits humains fondamentaux, la vie privée, la liberté de transaction, les droits de l'homme, le droit d'asile, ça vient vraiment grignoter sur toutes ces libertés fondamentales, et ce, pour insister sur ce que disait Théo, de façon arbitraire. C'est hors des circuits légaux, et en Europe, ça passe notamment, alors on pourra détailler le schéma s'il le faut, mais ça passe notamment par le GAFI qui impose certaines normes financières de surveillance qui ne sont jamais délibérées d'un point de vue démocratique.
Effectivement, on va revenir sur l'Europe dans quelques instants. Mais d'abord, Théo Mogenet, par rapport à tous les exemples là, qu'Alexandre vient de citer, est-ce qu'aujourd'hui, là, à l'instant où on se parle, Bitcoin peut être une réponse face à ça ? Est-ce que Bitcoin peut aider à contourner justement voilà, certains cas de débancarisation qui parfois peuvent être arbitraires ?
Bah oui, complètement. Je pense qu'on peut même l'illustrer en revenant sur un des exemples qu'Alexandre a mentionné. Donc, l'épisode des camionneurs canadiens qui est passé un peu inaperçu en Occident, notamment parce qu'il était presque concomitant avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, donc il n'était pas forcément en tête de l'actualité. Pour remettre un peu de contexte, il s'agit de personnes qui, du coup, sont appuyées sur leur droit constitutionnel à manifester pour exprimer leur désapprobation de l'obligation vaccinale. Et effectivement, comme l'a exprimé Alexandre, d'abord, la campagne de financement participatif qu'ils ont effectuée via une plateforme bien connue s'est vue à geler les fonds qu'ils avaient récoltés. Et ensuite, c'est les individus qui ont été ciblés avec le gel de leur compte et parfois leur débancarisation complète. Et il se trouve que du coup, mon entreprise Bull Bitcoin, qui est originellement canadienne, est intervenue dès le début de cette crise-là pour essayer justement d'expliquer à ces gens qui, encore une fois, ne faisaient que manifester de manière complètement constitutionnelle, comment est-ce qu'ils pouvaient contourner cette censure et continuer à s'en sortir en utilisant Bitcoin, à la fois pour récolter des dons, aussi pour pouvoir dépenser, et également pour pouvoir éventuellement mettre un peu d'argent de côté, parce qu'évidemment, quand vous faites des grèves, ça coûte de l'argent, vous n'êtes pas payé entre-temps, et donc il y a souvent besoin de caisses, de mécanismes de solidarité, etc. etc. Donc finalement, si on revient dans le cadre général, pour revenir à ce qu'on disait avant, dans la mesure où Bitcoin est ce projet qui a pour objectif de séparer la monnaie de l'État, on peut voir Bitcoin comme une infrastructure publique, c'est-à-dire vraiment un bien commun auquel tout le monde peut accéder. Bitcoin ne sait pas si vous êtes blanc, si vous êtes noir, si vous votez à gauche, si vous votez à droite, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il s'en fiche. Il reconnaît que des clés cryptographiques. Et donc, à cet égard-là, c'est une infrastructure publique que tout le monde peut utiliser et qui peut justement garantir que personne ne puisse être mis au banc de la société comme ça par ce genre de mécanisme. Et donc, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas bitcoiner, que vous n'en détenez pas, que ça vous intéresse peut-être pas, je pense que vous devriez souhaiter que Bitcoin existe justement pour préserver l'état de droit et les républiques constitutionnelles dans lesquelles on vit, notamment parce que ça garantit que ce genre de répression, encore une fois, comme le disait Alexandre, capricieuse, arbitraire, unilatérale et effectuée en dehors de tout contexte légal, ne puisse pas nous plonger petit à petit vers une société de contrôle, de censure, et dans laquelle finalement le pouvoir politique et administratif peut façonner l'opinion, peut obtenir des médias aux ordres, peut censurer ses opposants politiques, peut censurer des individus, peut détruire des industries entières qui, bien qu'elles opèrent légalement, ne lui plaisent pas, etc., etc. Mmh. Donc c'est vraiment une alternative et un contre-pouvoir très puissant pour la garantie des libertés dans nos démocraties occidentales.
Effectivement, Alexandre, là, ce que vient de dire Théo, on parlait de que Bitcoin pouvait être un outil qui peut être une réponse face à dans certains cas, des bancarisations qui peuvent être abusives. Mais on va parler aussi là de surveillance financière et en Europe. Pour commencer, c'est quoi la surveillance financière? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a quoi derrière ce terme surveillance financière?
Tout cela fait partie d'un même spectre, c'est-à-dire que la débancarisation, c'est l'aboutissement. Mais pourquoi on en arrive à la débancarisation? En fait, il faut comprendre le mécanisme qui arrive à cette possibilité qui soit utilisée de manière industrielle. Au départ, ça part toujours d'un bon sentiment. Le bon sentiment, c'est de dire la finance se numérise, la bancarisation a progressé. Hein, aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, en France, on est à 99% de taux de bancarisation. Tout le monde a un compte bancaire, c'est tellement nécessaire que c'est légalement obligatoire d'avoir un compte bancaire pour toucher un salaire au-dessus de 1 500 €. Donc, beaucoup de gens sont concernés. Donc, tout le monde est bancarisé, globalement. Et donc, tout le monde passe par l'industrie bancaire. Et c'est beaucoup plus simple de contrôler quelques banques et de les surveiller plutôt que de surveiller 60 millions de personnes ou 500 ou 1 milliard. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? On a dit, là, il y a des attentats terroristes, il y a du blanchiment, il y a de la fraude. Donc, il faut lutter contre ces choses-là. Comment on va lutter? Il faut mettre en place des bonnes pratiques de surveillance. Et donc, dans les années de mémoire 80-90, il y a un groupe qui a été fondé qui s'appelle le groupe d'action financière, le GAFI, et qui avait pour but de formuler des bonnes pratiques pour permettre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc, au fur et à mesure des années, en fait, à chaque fois, ces mesures sont renforcées. En Europe, on en est déjà à la directive numéro 6 sur le sujet du blanchiment et du financement du terrorisme, qui a été votée en avril cette année. Et leur but, à chaque fois, c'est de dire, on va surveiller de plus en plus les flux. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ces flux? Pourquoi? À quelle destination? Et c'est la raison pour laquelle, quand vous ouvrez un compte n'importe où, on va vous demander papier d'identité, justificatif de domicile, origine des fonds, justificatif de salaire, de machin. On va vous demander tout plein de documents. qui, pour respecter ces directives-là. Le problème majeur, c'est que ce GAFI, il a rien de démocratique, en fait. C'est un groupe, voilà, qui n'est pas élu par qui que ce soit, et qui donne des guidelines, des recommandations, mais qui sont pernicieuses. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, bon, on n'a qu'à ne pas les suivre, ces recommandations. Dans la réalité, si vous les suivez pas, vous passez sur liste grise ou sur liste noire. Et si vous êtes sur liste grise ou noire, bah, l'ensemble des autres pays membres du GAFI, en fait, n'a quasiment plus le droit d'interagir avec vous. Vous êtes exclu du monde financier international. Donc, c'est impossible. On peut pas faire ce genre de choses. Donc, en fait, on est obligé de se conformer. Et donc, on se retrouve avec un groupe qui n'est pas tenu par les règles démocratiques, notamment de proportionnalité. On va pas sortir un marteau-piqueur pour planter un clou. Globalement, c'est ça, la proportionnalité. D'un point de vue juridique, la proportionnalité, ça veut dire, par exemple, peut-être qu'on a envie de lutter contre la criminalité, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre un policier chez tout le monde? Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on hypothèque trop de libertés fondamentales, donc on va pas le faire. Le GAFI n'est pas tenu à ça. Donc il demande toujours plus de contrôle, toujours plus de normes, qui accessoirement ne sont pas efficaces. L'ensemble des études montrent qu'on récupère quasiment rien, 0,05% en gros, des fonds criminels qui sont cherchés. Et donc ça se traduit peu à peu dans la loi, par des directives, et ensuite ça se termine dans les banques, qui ensuite appliquent. Je termine par ça. Là où c'est pernicieux, c'est que le régulateur ne peut pas décemment mettre dans la loi des choses comme si ça vient d'un pays louche, ça dégage, ou si vous êtes d'une population à risque, ça dégage. On ne peut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les régulateurs, ils disent, on se défausse de la responsabilité, ce seront aux acteurs bancaires de faire une approche par les risques. Approche par les risques, ça veut dire débrouillez-vous. Et donc les acteurs bancaires se retrouvent dans une situation où ils doivent eux-mêmes analyser le risque, et ils ont une épée de Damoclès qui leur dit, vous faites ce que vous voulez, cependant, s'il y a quoi que ce soit qui passe et qu'on s'aperçoit que c'est du blanchiment, vous allez prendre une énorme amende, voire des responsabilités pénales. Donc les banques se retirent et dès qu'il y a un début de commencement de risque, ne veulent pas prendre le risque. Et comme la loi ne leur demande pas de justifier les fermetures de comptes, souvent, derrière, le glissement avec l'arbitraire et la sélection des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou par exemple dans le cas des cryptos qui nous font concurrence, tiens, on n'aime pas que les gens nous fassent concurrence, donc on va fermer. Les fintechs en France, c'est la même chose. Il y a très peu de fintechs qui ont fonctionné. Pourquoi? Parce que quand vous vouliez faire une fintech, il fallait avoir un compte bancaire. C'était difficile d'avoir un compte bancaire.
Bon, on arrive au bout du temps imparti, mais Alexandre, en fait, ce qui est assez compliqué aussi, c'est qu'effectivement, il y a une lutte contre le blanchiment d'argent, le terrorisme, mais il faut trouver le juste curseur. Et là, ce qui est compliqué, c'est effectivement de ce que vous nous dites, c'est d'arriver à trouver ce juste curseur.
C'est même pas
entre
une question.
Un contrôle et un.
C'est pas une question de juste curseur à l'heure actuelle, parce que si on faisait le début du commencement d'une évaluation des politiques publiques. Ce qui est normalement censé être la base dans une société démocratique, on fait un truc, on évalue la politique publique, si ça fonctionne pas, on l'arrête. Parce que on va pas hypothéquer des libertés fondamentales pour finalement aucun résultat. Les résultats des politiques anti-blanchiment sont quasi nuls. Leur utilité principale, c'est la censure, le contrôle de l'exil fiscal, notamment, mais ça n'a rien à voir avec le blanchiment, ou bien justement le fait de pouvoir mettre au ban des activités légales, mais qu'on trouve pas de circuit légal pour le faire. Mais d'un point de vue du blanchiment et du financement du terrorisme, la criminalité se porte très bien. On retrouve quasiment aucun de ces fonds. Et même quand les banques sont condamnées, j'ai pas vu une seule mesure pénale depuis près de 20 ans sur des acteurs bancaires qui ont pourtant certains financé des cartels de la drogue, d'autres des agissements encore pires. Donc, c'est pas une question de juste milieu, en fait. C'est une question de c'est complètement inefficient et inefficace.
Merci beaucoup Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Merci beaucoup Théo Mogenet, général manager Europe chez Bull Bitcoin. Désolé, on arrive au bout du temps imparti, mais vous reviendrez nous parler dans quelques jours. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h.
BFM Business, BFM Crypto, le club.